RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France à l'occasion de cette 13e étape du Tour. Une ambiance très particulière règne, vous en doutez, aujourd'hui sur la route du Tour, au lendemain de ce terrible attentat dont a été victime Nice, une ville qui m'est très chère. Évidemment, je pense très fort à toutes les victimes, à ma famille, à mes amis qui pour la plupart sont indemnes, mais évidemment on pense très fort à eux. Et Georges Quirino est également, puisque lui aussi est originaire de cette ville qui nous est chère. Le Tour de France qui continue donc aujourd'hui, malgré cette ambiance très très particulière, le Tour de France qui a bien failli aujourd'hui mettre le pied à terre, puisque les dirigeants du Tour de France ont failli ce matin annuler l'étape avant finalement de revenir sur leur décision. Mais une course qui se déroule quand même dans des conditions un peu spéciales. Jean-François Patureau est à nos côtés. Bonjour Jeff. Ce matin, donc gros conciliabule entre tous les dirigeants du Tour de France qui ont hésité un grand moment avant de finalement décider de laisser se dérouler cette 13e étape du Tour de France. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui sont passés ce matin au village départ.
Beaucoup d'émotions aussi, on va dire, dans ce Tour de France, puisque la rumeur est partie assez tôt en se disant que peut-être l'étape allait être annulée à cause évidemment de ces attentats hier à Nice. Finalement, l'étape a été maintenue. Christian Prudhomme, devait tenir une allocution, une conférence de presse, seulement une allocution, pas de questions. Rendez-vous à 9h30. On a reçu un appel du service de presse à 9h15. Autant dire qu'il a fallu se presser pour arriver à l'heure et pour entendre Christian Prudhomme annoncer que l'étape serait bien maintenue, qu'évidemment les organisateurs se sont posés des questions avant de maintenir l'étape, mais qu'il fallait continuer à vivre, continuer à organiser le Tour de France. Le Tour de France est peut-être plus fort que le reste, c'est ce qu'est le discours évidemment ce matin de l'organisateur du Tour de France. Ensuite, une minute de silence poignante au village, il y en aura une encore ce soir au protocole avec les différents porteurs de maillots du vainqueur d'étape. On a senti beaucoup d'émotions. Christian Prudhomme a pris la parole au milieu du village. Ensuite, tout le monde s'est tu. Quelques applaudissements et tout le monde s'est un peu éparpillé, mais on a senti une ambiance très lourde, évidemment, dans, chez les spectateurs, chez les directeurs sportifs. Certains nous disaient, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est vrai que nous-mêmes, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait là?
Alors, on va écouter tout de suite Christian Prudhomme, donc le directeur du Tour de France, était ce matin au village départ lorsqu'il a finalement décidé de laisser se dérouler cette 13e étape du Tour de France. Christian Prudhomme.
C'est une journée de deuil. Nous connaissons très bien Nice, où nous organisons chaque année, au mois de mars, Paris-Nice. L'étape du jour, le contre-la-montre dans l'Ardèche est maintenu. Nous ferons dans quelques instants une minute de silence au village départ. Il y aura ce soir aussi une minute de silence à l'arrivée de l'étape. Nous souhaitons que cette journée soit digne en hommage aux victimes. Nous pensons aux familles, nous présentons nos condoléances à tous ceux qui ont été touchés, qui ont perdu un être cher. Nous nous sommes interrogés en effet, mais nous pensons, en accord avec les autorités de l'État, que la course doit continuer, qu'il ne faut pas céder aux pressions de gens qui veulent que nous changions notre façon de vivre. Le Tour de France continuera dans la sobriété, dans la dignité. Je vous remercie.
Voilà, Christian Prudhomme, très digne ce matin, avec beaucoup d'émotion dans la voix, vous l'avez entendu, le directeur du Tour de France. Frédéric Adam est à mes côtés également. Fred, la caravane aujourd'hui a décidé de faire aussi profil bas sur toutes les routes de cette étape du Tour de France.
Hein. Oui, une caravane qui s'était lancée ce matin assez tôt, puisque les premiers départs ce matin sur ce contre-la-montre, c'est la 13e étape aujourd'hui. L'étape a bel et bien eu lieu avec un premier départ sur les coups de 10h05, donc départ très matinal de la caravane en silence, et c'est assez exceptionnel. On n'est pas du tout dans la festivité aujourd'hui, et c'est le cas également sur cette ligne d'arrivée aujourd'hui. Pas de musique, pas de ton enjoué, et encore moins de messages publicitaires criants. Effectivement, c'est profil bas pour tout le monde, et Jeff parlait il y a quelques instants de l'ambiance au village départ. Ici, derrière la ligne d'arrivée, il y a également des bus avec des directeurs sportifs, avec des soigneurs, avec des kinés, avec des coureurs qui en terminent avec ce magnifique parcours contre la montre. Et c'est vrai que l'ambiance est très particulière. Les coureurs français, évidemment, qui sont les plus touchés, mais l'ensemble des staffs de toutes les équipes a une attitude très, très, très mesurée aujourd'hui.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, Fred, au village, normalement, il y a de l'effervescence, il y a de la joie, il y a de la musique. Ce matin, c'était vide. Il n'y avait personne quasiment. Et pourtant, il y avait du monde devant qui attendait les coureurs, mais au village, on sentait comme une tranquillité très étrange en fait.
Mais c'est aussi parce que c'est un contre-la-montre et que du coup le village départ qui est évidemment très festif et qui est le point de rendez-vous de tous les suiveurs, qu'ils soient réguliers sur l'ensemble des trois semaines de la course ou qu'ils soient ponctuels de manière invitée, ce village départ sur les contre-la-montre est ouvert toute la journée puisque les départs s'échelonnent pendant 5-6 heures. Donc c'est vrai que tout le monde ne s'est pas massé évidemment dès 9h30 sur le village départ.
Les coureurs évidemment très émus aussi. Jérôme Pineau est à mes côtés. Salut Jérôme.
Salut à tous.
Il faut savoir que beaucoup de coureurs habitent sur la Côte d'Azur une partie de l'année ou même tout au long de l'année. Et donc évidemment lorsqu'on connaît le pays, lorsqu'on connaît cette très belle promenade des Anglais, on a des images qui reviennent et tous les coureurs étaient très émus ce matin aussi. Hein.
Oui, bien sûr, je crois qu'au-delà du fait de ce drame, on se sent tous responsables. Beaucoup de coureurs habitent sur la Côte d'Azur, beaucoup de coureurs sont pères de famille, donc ils ont aussi vu ces images sur les réseaux sociaux, entendu très vite cette horrible nouvelle, donc tout le monde s'est rassemblé. Je crois que les coureurs aujourd'hui vont faire le métier, mais pas plus. On n'a pas le cœur à être là. Il y a beaucoup de, comme tu le dis Christophe, de coureurs qui habitent sur cette Côte d'Azur, qui sont habitués. On est tous habitués à aller à Nice. On connaît très bien cette promenade des Anglais quand on est coureur.
Lieu d'arrivée de Paris-Nice chaque année. Hein.
Oui, exactement. Et c'est une ville que l'on aime quand on est coureur, même quand on n'y habite pas. On y vient souvent. Moi-même, lors de ma carrière, j'avais mes habitudes à Fréjus. Je connaissais très bien Nice. Je connais très bien Nice. Donc c'est vrai que cet événement dans cette ville qu'on aime tant, ça a bouleversé tout le monde. Et les coureurs en premier aujourd'hui, ils sont sur la route, ils font le job, ils font le métier, mais ils n'ont pas le cœur ni la tête à ça.
Et on les comprend évidemment. Jeff, tu as rencontré quelques coureurs justement au départ de ce contre-la-montre ce matin. On va en écouter quelques-uns, notamment Amel Moinard, qui est niçois d'adoption d'ailleurs, je crois.
C'est ça, ouais, qui est donc d'autant plus touché, d'autant plus affecté par cette nouvelle. Et c'est vrai que dans tous les coureurs, on sentait quelque chose de triste dans les yeux ce matin. On parlait évidemment de l'étape encore d'hier, de tout ce qui s'est passé, mais chez moi, Raphaël Moinard, comme d'autres, on sent vraiment de l'émotion. Ouais. Amel Moinard.
On l'écoute.
Bah, c'est ma femme qui m'a appelé ce matin au réveil. Une horreur quoi, de se réveiller comme ça avec une telle nouvelle. Et puis, bon, elle m'a dit voilà, ils sont pas allés hier au feu d'artifice, ils étaient fatigués, mais c'est juste horrible d'apprendre ces choses-là. On veut, quel que soit l'endroit où ça se passe, on veut vraiment pas voir ça, qu'on a juste envie de profiter, de vivre. Et puis, quand on aime la vie, on n'est rien comparé à ce genre d'individus.
Voilà, Mel Moinard, coordonne la formation BMC, donc niçois d'adoption. Sa famille habite sur la Côte d'Azur. Également interrogé ce matin au départ, Marc Madio, le manager de la formation FDJ, qui porte si haut les patriotes et qui lui aussi a vécu un moment particulier. Je ne sais pas si on peut écouter tout de suite Marc Madio. On va l'écouter dans un instant.
Il relativise en tout cas, hein, par exemple l'abandon de Thibaut Pinot.
Il prend
beaucoup de recul. C'est que du sportif.
Exactement. On n'a pas eu le temps évidemment de vous donner les informations de la course, mais Thibaut Pinot, porteur hier encore du maillot à poids de meilleur grimpeur, a décidé ce matin d'abandonner la course, victime d'une bronchite. On va écouter tout de suite donc Marc Madio, le manager de la FDJ.
Depuis le départ du tour, j'y pensais pas vraiment, tu vois. Il y a eu l'Euro qui s'était bien passé. Là, on était on était rentré dans notre match à nous, quoi. Notre match à nous, c'est le tour, c'est la course. Donc, on est, inconsciemment, on s'éloigne de toute la réalité de la vie au quotidien. Et puis là, t'allumes ta télé le soir tard, boum, tu te prends le pare-pain dans la gueule, quoi. Et tu te dis, mais je suis où, je fais quoi? Demain, j'ai une course de vélo. Voilà. C'est particulier.
Effectivement, Marc Madio, alors que Thibaut Pinot a tweeté lui aussi tout à l'heure en disant « Je quitte malheureusement la route du Tour, mais aujourd'hui, il y a plus grave. Comment tuer des innocents sur la baie des Anges ?» Voilà, c'était le tweet de Thibaut Pinot qui a donc quitté la route du Tour aujourd'hui en cette journée si particulière. La sécurité, évidemment, sur le Tour de France, on a beaucoup parlé pendant l'Euro de la sécurité qui entourait le championnat d'Europe avec des mesures de sécurité particulièrement draconiennes. Et bien sur le Tour de France également, les mesures sont importantes et elles ont encore été renforcé aujourd'hui, Pierre-Yves, parce que on a touché hier un symbole. Le 14 juillet, on pourrait toucher un autre symbole qui est le Tour de France.
Évidemment, et il y avait beaucoup d'inquiétude aussi ce matin. Il y a eu une réunion de crise sous la direction du préfet de l'Ardèche qui s'est tenue en compagnie des membres d'ISO, de la direction, en lien aussi avec l'Elysée, avec la place Beauvau, pour savoir ce qu'il fallait faire. Renfort de sécurité sur l'étape, évidemment, avec les gendarmes et puis l'unité d'élite, le GIGN. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des renforts avec des physionomistes, par exemple, qui sont au départ de l'étape, qui surveillent un petit peu. Il y a aujourd'hui, par exemple un hélicoptère de la gendarmerie, alors que d'habitude sur un contre-la-montre de 37 km, il n'y a pas d'hélicoptère. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de mesures. Et puis aussi, les arrivées de route sont plus particulièrement surveillées, forcément. Mais il faut réagir très vite. Et puis on sait que c'est un stade sur 3500 km qu'il faut surveiller pendant tout le Tour de France, donc c'est forcément compliqué.
Ouais, on a annoncé, je crois, la venue de 600 hommes supplémentaires aujourd'hui sur la route du Tour de France, qui vont sans doute accompagner le peloton jusqu'à l'arrivée à Paris dans un peu plus d'une semaine. Tu as rencontré Pierre-Yves tout à l'heure, le patron de la gendarmerie sur le Tour de France, le lieutenant colonel Luzet.
Effectivement, qu'on croise régulièrement et qui aujourd'hui portait un petit crêpe noir sur le côté de sa manche, tout comme d'ailleurs la majorité des membres d'ASO, de l'organisation. Effectivement, qui tenait à marquer aussi leur sympathie pour les familles de victimes. Et l'officier de liaison donc de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Éric Luzet, qui était ce matin au village départ et qui explique aussi en quoi la gendarmerie peut renforcer un petit peu le dispositif.
Ce matin, une réunion s'est tenue en présence du préfet du département pour discuter de la tenue de cet événement. Il a été décidé de le maintenir sous condition, parce que nous inscrivons dans une journée endeuillée par les événements d'hier soir, l'organisation dans son ensemble, et ça je laisserai plutôt le soin à Christian Prudhomme d'y répondre. Moi je reviens plutôt sur les questions de sécurité. Donc nous avons pris en compte les événements dramatiques qui se sont déroulés à Nice pour réarticuler notre dispositif, revoir notre dispositif, renforcer notre dispositif de manière à assurer une sécurité absolue sur l'ensemble des sites du Tour de France et sur l'ensemble du parcours.
Voilà, le lieutenant-colonel Luzet, donc patron de la gendarmerie sur les routes du Tour de France, et puis également des gens de l'organisation s'occupent de la sécurité. Hein.
Oui, Pierre-Yves Thouault, qui est adjoint à la direction d'ASO, de l'organisation, qui est responsable de la sécurité, marqué lui aussi par les événements évidemment de la nuit du côté de Nice, qui a témoigné ce matin à plusieurs reprises pour expliquer qu'il y avait eu un certain nombre de décisions de prise, mais aussi qu'il y avait eu cette hésitation sur la tenue de l'étape. Pierre-Yves Thouault, qu'on écoute ce matin, il était au village départ de cette étape du Tour de France.
Beaucoup de questions, surtout l'ambiance effectivement très particulière, puisque avec cet événement horrible qui s'est déroulé à Nice, nos pensées vont d'abord aux nombreuses victimes. Réunion de crise ce matin, sous la présidence du préfet de l'Ardèche, en lien direct avec l'Élysée et Bobo et le ministère de l'Intérieur, pour poursuivre cette étape, mais dans la dignité, puisque la caravane a pu évoluer sur les routes de l'Ardèche, sans son, bien évidemment, sans animation. C'est ce qu'on a fait ce matin aussi avec une minute de silence, et c'est ce qu'on fera aussi ce soir sur le podium protocolaire.
Voilà, minute de silence qui sera donc également respectée ce soir sur le podium protocolaire de cette 13e étape du Tour de France. On évoque évidemment cette situation si particulière aujourd'hui sur les routes du Tour. La sécurité donc très présente, l'émotion également. Vous avez entendu les organisateurs, vous avez également entendu les acteurs de ce Tour de France. Et puis il y a aussi les spectateurs qui sont encore des milliers aujourd'hui sur les bords des routes, mais avec évidemment dans le cœur et dans la tête des images qui ont du mal à s'effacer. Yann Pécheral est avec moi, lui aussi connaît particulièrement bien cette ville de Nice, puisqu'il suit au quotidien, toute l'année, les exploits, parce qu'il faut bien parler d'exploits de l'OGC Nice. Yann, donc un peu d'émotion évidemment, beaucoup d'entre nous sommes originaires de la région, donc voilà. Alors, les spectateurs, tout à l'heure, Yann, tu les as rencontrés, et là aussi, même si on n'est pas à Nice, eh bien, ils avaient beaucoup d'émotion dans le visage.
Oui, bonjour à tous, salut Christophe. Effectivement, il y avait de l'émotion au départ, mais ce qui était intéressant de savoir, c'est de savoir si les gens autour de la route du Tour de France étaient plutôt inquiets ou plutôt rassurés. C'est ce qui nous intéressait, de savoir si la sécurité autour du Tour ça les inquiétait ou pas. Et on a eu des témoignages toujours dans le même sens, j'ai envie de dire, à nous dire on voit de la sécurité. C'est vrai qu'au départ et aux arrivées, il y a énormément de forces de l'ordre, il y a beaucoup de gendarmes qui sont présents, et donc les gens sont rassurés. Et puis toujours le même discours, tout le monde nous dit il faut pas laisser gagner le terrorisme, donc les organisateurs ont bien fait de laisser partir cette étape, la vie continue, il faut absolument que le tour continue également, et il n'y avait pas de crainte, il y avait de l'émotion, il n'y avait pas de crainte, et voilà, et encore une fois on disait que les organisateurs avaient pris la bonne décision en laissant cette 13e étape se dérouler.
On va les écouter tout de suite, donc les spectateurs sur les bords des routes, tout à l'heure interrogé par Yann Pécheral.
Devant ces gens-là, il ne faut pas reculer, il faut continuer à avoir notre loisir, notre plaisir, faire montrer qu'on est plus fort qu'eux quand même. Même beaucoup d'émotions, je pense bien à ces gens qui sont partis, aux familles, mais on les soutient, mais il faut qu'on continue à être forts tous.
Le sport, il faut que c'est convivial, il faut quand même, bon, avec toute la sécurité qu'il faut, mais il faut quand même continuer, hein. Il ne faut pas vivre dans la psychose non plus. Il peut arriver quelque chose, hein. Et je veux dire, au milieu de tous ces gens, on ne sait pas ce qu'il y a dans les sacs, on ne sait pas. Voilà, bon après, espérons qu'il n'arrive rien surtout. Il ne faut pas psychoter à mon avis, hein, je pense. Sinon on ne fait plus rien.
Là je me sens en sécurité, oui, j'ai vu assez de gendarmes sur le tour, donc c'est ce qui est rassurant.
Disons qu'il faut être vigilant, c'est certain. Être bien vigilant et puis à partir de là donc donner des renseignements aux forces de l'ordre. C'est la population qui va faire la différence là.
Pas du tout, ce matin on va aller autour. Malheureusement, bon, hier soir quand on est rentré, on a appris ça à la radio. J'ai même hésité à écouter les informations ce matin, mais il faut continuer. Hein. On va pas se priver de. On aura une pensée à tous ces gens-là. Puis c'est...
Voilà, le spectacle continue, The Show Must Go On, et effectivement le Tour de France a donc décidé de continuer sa route aujourd'hui. Merci Yann pour ces témoignages. Jérôme, Fred, évidemment c'est compliqué de parler de sport en cette journée. On va quand même malgré tout essayer de le faire parce que c'est une étape importante de ce Tour de France, surtout au lendemain de ces événements qui se sont déroulés aussi sur le Tour de France hier, parce qu'avant ces attentats, avant ces terribles images, il s'était passé de drôles de choses sur la route du Tour. Avant de vous donner la parole, on va également partir sur le départ de cette étape, puisque Georges Quirino se trouve là-bas sur la moto RMC. Bonjour Georges.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Voilà, ambiance particulière, on l'a entendu il y a quelques instants. Est-ce que tu sens là aussi une ambiance un peu particulière au départ du Tour et sur le visage des coureurs qui, les uns après les autres, s'élancent dans cet exercice particulier du contre-la-montre?
Alors déjà, Jeff l'expliquait un petit peu tout à l'heure, et c'est toujours le cas ici au départ, où habituellement c'est une grande fête, hein, mais Christian Prudhomme nous l'a bien répété ce matin, le Tour n'est pas en fête aujourd'hui, c'est une journée de deuil, il n'y a pas de musique au départ, juste la voix du speaker qui annonce tour à tour le départ de chaque coureur sur cette aire de lancement ici, les quelques applaudissements des supporters, tous les membres de l'organisation de Amaury Sport, de l'organisateur du Tour de France ont des brassards noirs au bras. C'est le cas de Christian Prudhomme, voilà, qui est juste à côté de nous et qui va partir dans sa voiture rouge derrière le Français Romain Bardet. Tout le monde est un peu touché. On a vu Julien Alaphilippe tout à l'heure qui nous expliquait qu'il avait un peu mal à la tête, hein, ce matin en ayant ces images en tête. On parle aussi avec Nicolas Portal tout à l'heure, le directeur sportif de la formation Sky de Christopher Froome. Vous savez que et Chris Froome et beaucoup de coureurs anglo-saxons habitent à Monaco ou à Nice, vous en avez évoqué un petit peu tout à l'heure, et donc ils étaient forcément tous les yeux rivés hier soir sur la télévision. On a d'ailleurs vu ce tweet de Chris Froome dès hier soir qui adressait ses prières évidemment à tous les proches des victimes. En tous les cas, la course a bien repris ce matin, et la bagarre des favoris va débuter dans quelques instants. Voilà Romain Bardet qui est en train de se placer dans l'aire de départ, mais évidemment Christophe, je pense que c'est le cas pour toi aussi aujourd'hui. Avant la course, on a plutôt envie de penser à cette phrase que tous Niçois connaissent, même Baptiste Younissart, yeah. S'en fout, on est Niçois quoi qu'il arrive, et on a une pensée évidemment pour tous les proches des victimes de la promenade des Anglais.
Évidemment, merci Georges donc pour ce petit point au départ de la course. Dans quelques instants, effectivement, Romain Bardet va s'élancer pour les 37 km
de cette
épreuve. Fred, on va faire un point quand même sur la course, parce que beaucoup en ont déjà terminé, alors que les grands favoris du Tour de France vont s'élancer dans les minutes qui viennent, et notamment Romain Bardet qui va s'élancer dans un instant. Fred, le point. Oui,
Romain Bardet, cinquième du classement général ce matin, à 1 minute 15 de Christopher Froome, on le rappelle, maillot jaune, bel et bien maillot jaune, malgré les incidents hier, on le rappelle, dans le Mont Ventoux. Il n'en reste donc plus que 5 à s'élancer sur ces 37,5 km contre la montre, tracé sur les hauteurs des Gorges de l'Ardèche, puis le long des Gorges de l'Ardèche avant l'arrivée ici au-delà de Vallon-Pont d'Arc, à la caverne du Pont d'Arc très exactement. Journée ensoleillée, journée ventée, et pour l'instant meilleur temps provisoire ici sur la ligne d'arrivée, ce n'est pas une surprise, du Hollandais Tom Dumoulin, 25 ans, déjà vainqueur d'un contre-la-montre sur le Tour d'Italie et d'un contre-la-montre sur la Vuelta, et qui devance assez largement le Portugais Nelson Oliveira, le troisième pour l'instant, et les Français, c'est l'ancien champion de France de la spécialité, Jérôme Coppel. Sachez que Tony Martin est 6e, Cancellara 12e. Aujourd'hui, ce n'est pas un contre-la-montre pour pur rouleur, loin de là. Le parcours est difficile, escarpé. On est en Ardèche et les organisateurs ont tracé vraiment un chrono qui va convenir a priori aux hommes forts du classement général. Et on attend évidemment une explication entre Christopher Froome, Richie Porte, on attend Nairo Quintana. Que va-t-il faire sur un tel parcours? Et Romain Bardet. Romain Bardet va-t-il limiter la casse? Va-t-il perdre gros? Réponse dans quelques instants. Effectivement, Romain Bardet, cinquième du général, qui vient de partir.
Exactement, il vient de partir. La moto RMC se trouve juste derrière lui. Georges, un tout petit point sur le départ de Romain Bardet qui a gros à jouer aujourd'hui. Hein.
Exactement, Romain Bardet qui est cinquième du classement général à 1 minute 15 du maillot jaune. Christopher Froome, il vient de s'élancer, évidemment très encouragé par le public. Vincent Lavenu, son manager, et Julien Jordi, son directeur sportif, qui sont juste derrière lui. Le tout début de ce parcours qui débute tout de suite par une petite côte, un faux plat montant, et Romain Bardet qui est en train de chercher la meilleure position possible avec une roue pleine aujourd'hui côté technique pour le Français sur la roue arrière.
Merci Georges. Allez, 16h28 sur RMC, on se quitte quelques instants. On va prendre évidemment les dernières informations concernant ces terribles événements à Nice dans un instant. Et on revient sur la route du Tour pour les départs des principaux favoris de ce Tour de France. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour cette 13e étape du Tour de France, disputée dans des conditions bien particulières, vous l'avez compris, au lendemain des terribles événements qui ont marqué et qui ont frappé la ville de Nice hier soir au moment du feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais. À 17h, nous écouterons la conférence de presse du procureur de Paris, François Malins, qui se trouve à Nice et qui donnera les derniers détails et les derniers développements de cette affaire. Pour l'instant, nous revenons sur le sport avec cette 13e étape, donc un contre la montre de 37 km 500, Fred. Avant de faire le point, on va retourner sur la moto RMC qui se trouve juste derrière Romain Bardet, qui, on le rappelle, est le Français le mieux classé au classement général. Hein. Romain Bardet, ambitieux cette année, mais pour être ambitieux, il va lui falloir réussir un bon temps aujourd'hui dans le chrono, Georges.
Exactement, dans les premiers kilomètres, les trois premiers kilomètres pour Romain Bardet sur son vélo de contre-la-montre, les deux mains sur son prolongateur pour le Français concentré sur son effort qui reste sur la droite de la route. Le vent qui souffle fort là pour l'instant sur les coureurs sur cette partie, sur cette petite côte. Il est encouragé par Julien Jordi et Vincent Lavenu, son manager et son directeur sportif derrière lui pour le Français, encouragé beaucoup également par le public qui est nombreux, Christophe, aujourd'hui sur les routes du Tour de France. Pas de psychose en tous les cas, le public est très nombreux sous le soleil aujourd'hui de cette côte de Bourg-Saint-Andéol pour encourager Romain Bardet sur ses premiers hectomètres de ce contre-la-montre, celui qui est cinquième du classement général ce matin à 1 minute 15 de Christopher Froome. Fort vent latéral qui nous vient de la droite. Voilà, Romain Bardet qui reste sur la droite de la route pour essayer de se protéger au contact du public, notamment de ce vent.
Très bien, merci Georges. Tous les autres sont en train de s'élancer puisque Nairo Quintana, troisième au classement général, vient de partir. Fred, là, lui non plus, hein, n'est pas un spécialiste de cet exercice, même s'il a bien progressé dans le domaine, un peu à l'image de Thibaut Pinot. Aujourd'hui, là aussi, il va lui falloir limiter les dégâts par rapport à Chris Froome qui, lui, est beaucoup plus un spécialiste de l'exercice.
Oui, et nous prouver qu'il est encore un prétendant à la victoire finale à Paris parce que sur ce qu'il a montré depuis le départ du Tour, c'est-à-dire peu d'attaques ou alors des attaques vraiment pas tranchantes, des pièges dans lesquels il est tombé lorsqu'ils ont été tendus par Chris Froome, notamment dans la descente de Peyresourde l'autre jour à Montpellier, et puis hier à la pédale, il faut bien le dire, à la régulière, il était distancé par Christopher Froome. Nairo Quintana a tout intérêt aujourd'hui à se remettre dans le jeu, lui qui pointe à une minute de Christopher Froome au classement général. Nairo Quintana qui nourrit de solides espoirs, lui qui a remporté le contre la montre de la route du Sud le mois dernier. C'est un parcours pour lui, peut-être moins que Salanche Megève en dernière semaine sur cette étape de contre la montre en côte qui aura lieu en troisième
semaine. La côte de Domancy notamment qui sera redoutable.
Absolument, la fameuse côte de Domancy, chère à Bernard Hinault. On n'est pas encore sur des terrains aussi compliqués, mais aujourd'hui, ouais, il devrait être capable de limiter la casse, Nairo Quintana.
Tiens, on vient de voir Chris Froome monter sur le podium non pas sur le podium, mais sur la rampe de départ. Il est en train de regarder son vélo. Il a donc retrouvé un vélo, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jérôme Pinault, après les images complètement insolites, inédites sur les routes du Tour hier, Chris Froome perdu dans la montée du Ventoux sans vélo, mais finalement, il n'a rien perdu, puisque les commissaires, on le rappelle, ont décidé de le créditer du même temps que celui de Wokemolema, avec lequel il se trouvait lorsqu'il a été victime de l'incident de course. Donc Chris Froome qui limite les dégâts et qui creuse même les écarts, puisqu'il possède actuellement 47 secondes d'avance sur Adam Yates. Est-ce que un tel événement, ce qui s'est passé hier après-midi sur les pentes du Ventoux, peut aujourd'hui jouer un peu dans sa tête, lui faire tourner l'esprit?
Disons que suite à la décision des commissaires hier de le remettre dans le temps de Wokemolema, avec qui il était victime de cette chute, je pense que Chris Froome a finalement les idées remises en place. Maintenant, il sait très bien que ce chrono est très important pour lui et que oui, s'il n'assoit pas aujourd'hui sa suprématie, on sait très bien que la critique, les critiques envers Chris Froome reviendront très vite en disant qu'il a bénéficié d'un passe-droit sur le Mont Ventoux. Pour en revenir à hier, Christophe, on a eu quelques explications supplémentaires ce matin. Dans un premier temps, cette chute a été provoquée, comme on l'avait expliqué hier, par le trop grand nombre de spectateurs qui étaient revenus un peu plus bas que le chalet Reynard. Deuxième chose, les motos ouvreuses n'ont pas pu prendre le large, n'ont pas pu prendre le champ. Et c'est une moto, vous savez, ces motos maintenant qui sont ultra modernes, pleines d'électronique. L'une d'entre elles a calé. Et donc derrière on a dû freiner, et c'est ce qui a provoqué la chute d'abord de Richie Porte et puis de Chris Froome. Ensuite la moto qui était derrière, celle de la gendarmerie puis de la Mavic, ont roulé sur le vélo de Chris Froome. Et pour expliquer l'image de Chris Froome qui part en courant, tout simplement Chris Froome, on lui a cassé son vélo, le hauban arrière du vélo était cassé, et l'organisation et les gens sur les motos présentes aux côtés de Chris Froome lui ont demandé d'aller plus loin afin de fluidifier la circulation et de donner la possibilité aux voitures d'avancer et de lui donner un vélo. Donc Chris Froome a couru en espérant aller au moins jusqu'aux barrières qui étaient situées environ à 1,5 km de l'arrivée afin de pouvoir se saisir d'un vélo. Quoi qu'il en soit, l'Anglais a été remis dans ce temps-là, il est aujourd'hui en jaune, mais Chris Froome a aujourd'hui une grosse idée en tête, et pour en avoir parlé avec quelques-uns des membres de l'équipe Sky, il veut taper un grand coup aujourd'hui pour faire taire les critiques et dire c'est bien moi le plus fort, et sur le parcours d'aujourd'hui il risque effectivement d'enfoncer le clou.
Mais on peut se poser la question si les commissaires de course lui ont rendu un service finalement en lui accordant ce temps aujourd'hui. Il aurait pu reprendre le maillot jaune à la pédale et aurait en plus bénéficié d'une cote de popularité. Évidemment au moment où ça s'est joué, on n'a pas calculé ce genre de choses, mais
c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je pense que Chris Froome, au-delà de gagner avec une minute ou une minute trente, sur la minute trente perdue d'hier, il va essayer de mettre un point d'honneur à s'imposer avec un peu plus que cela, comme ça les critiques seront terminées.
Alors Georges Quirino qui a vu tout à l'heure Chris Froome se préparer à quelque chose à ajouter concernant le maillot jaune de ce tour. Georges.
Plusieurs choses, puisqu'on a beaucoup discuté avec Nicolas Portal, son directeur sportif, ce matin. Déjà sur son état physique, Nicolas Portal nous expliquait qu'il avait quelques douleurs hier soir, Christopher Froome, des douleurs notamment au dos, parce qu'il a quand même chuté hein, dans cette histoire, Christopher Froome, et il s'attendait, le directeur sportif de l'équipe Sky, à voir le maillot jaune souffrir peut-être aujourd'hui de douleurs et être amoindri pour le contre-la-montre. Donc ce sera à suivre quand même, hein, voir quel est l'état de forme véritable de Chris Froome après cette mésaventure. Et puis pour une note peut-être un peu plus légère, l'image qui a fait le tour du monde et qui a été détournée un million de fois déjà, c'est celle de Chris Froome en train de courir sans vélo dans cette ascension. Je peux vous assurer que même chez Sky, où on était passablement énervé quand même hier soir, mais un peu plus content après la décision du jury, on a beaucoup ri hier soir en regardant les réseaux sociaux,
avec notamment la musique de Titanic,
la musique de Titanic, la musique de Rambo, de la musique de Rocky, de Ben Hill, ils ont tout vu, Nicolas Portal, Geraint Thomas, le coureur, Christopher Froome, ils ont beaucoup rigolé. J'ai même demandé à Nicolas Portal s'ils n'allaient pas l'appeler Forrest Gump désormais. Il m'a dit ah tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée, on va peut-être l'appeler Forrest Gump, Christopher Froome, qui eux peuvent avoir le sourire et prendre ça à la légère le lendemain. Ceux qui prennent par contre un peu moins ça à la légère, il est devant nous actuellement, c'est le Néerlandais Bauke Mollema qui est dans ce contre-la-montre devant nous dans cette petite ascension au départ, le coureur de l'équipe Trek qui lui n'était pas tombé avec Richie Porte et Chris Froome à ce moment-là, qui était parti, donc il avait gagné du temps et qui se demandait hier soir si ça lui était arrivé à lui, est-ce qu'on lui aurait également fait la même chose, est-ce que Boké Mollema aurait récupéré le temps qu'il avait gagné. Et c'était le cas de beaucoup de personnes ce matin, hein. On a parlé avec Vincent Lavenu chez AG2R La Mondiale, ouais. Si c'était arrivé à Romain Bardet, on a parlé avec Marc Madiot, si c'était arrivé à Thibaut Pinot, tous pensent que parce que c'est Chris Froome, le jury a pris cette décision. On rappelle que Dave Brailsford, le manager de l'équipe Sky, a parlé pendant une heure après la course avec les commissaires.
C'était également l'avis de Cyril Guimard hier soir. Allez, on va s'interrompre quelques instants. On revient pour un point complet de la situation de cette 13e étape du Tour de France, puisque tous les coureurs se sont élancés. Chris Froome, le dernier à partir, est sur la route avec sa tenue toute de jaune vêtue. À tout de suite sur RMC.
Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Fred, ils en ont terminé ou sont sur la route de cette 13e étape du Tour de France. Les principaux favoris pour le classement général sont en tous les cas sur la route.
À tous les favoris, effectivement, puisque l'As, le Dossard 1, Christopher Froome, casque jaune, combinaison jaune, sur chaussures noires, vient de s'élancer il y a quelques instants. Christopher Froome qui ne craint pas la chute aujourd'hui parce qu'on lui voit les mains toutes blanches. Lui qui porte, comme tous les coureurs ou presque, des gants d'habitude, s'est élancé main nue et la trace du bronze est assez effarante. Ce sont des coureurs qui passent leur vie sur un vélo et du coup le bronzage s'étend même jusqu'aux mains. Christopher Froome lancé sur sa machine très aérodynamique chez Sky. Vous savez qu'on porte un soin tout particulier à cet exercice du contre-la-montre. Peu de kilomètres contre-la-montre aujourd'hui, 37,5 sur les routes ardéchoises. Il y en aura un deuxième contre-la-montre individuel un peu plus tard en troisième semaine dans les Alpes. Ce sera un contre-la-montre entre Sallanches et Megève, un contre-la-montre en côte, long de seulement 17 km, mais pourtant, eh bien, on a mis les petits plats dans les grands chez tout le monde et en particulier chez Sky. Pour l'instant, au classement provisoire, ici sur la ligne d'arrivée, à la caverne du Pont d'Arc, à la sortie des Gorges de l'Ardèche, les magnifiques Gorges de l'Ardèche baignées de soleil aujourd'hui, c'est un Hollandais champion des Pays-Bas du contre-la-montre qui occupe le meilleur temps, la première place de ce classement provisoire. C'est Tom Dumoulin, vainqueur, on s'en souvient, il y a quelques jours sous le déluge à Andorre Arcalis. Il possède le meilleur temps provisoire pour 1 minute 31 devant le Portugais Nelson Oliveira. Troisième chrono pour l'instant de Jérôme Coppel. Sachez qu'au premier point intermédiaire après 10 km, Richie Porte vient de passer avec 10 secondes de retard sur Tom Dumoulin.
Très bien, la suite de cette 13e étape, c'est dans un instant sur RMC.
RMC. RMC. RMC. Édition spéciale.
Sur la route du Tour aussi, ERDF devient Enedis. Aujourd'hui, le peloton relie Bourg-Saint-Andéol et la caverne du Pont d'Arc. Enedis, partenaire officiel du Tour de France, soutient les coureurs dans cette nouvelle étape toute l'année. Les équipes d'Enedis sillonnent la France pour vous apporter l'électricité dont vous avez besoin où que vous soyez et quel que soit votre fournisseur. Enedis, l'électricité en réseau. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC, c'est au 32-16,
45 centimes la minute,
et au 7-32-16,
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 13e étape du Tour de France au programme des coureurs aujourd'hui pour ce premier contre-la-montre du Tour de France, 37 km 500. Tous les favoris sont maintenant sur la route de ce contre-la-montre. Fred, est-ce qu'on a des premiers intermédiaires pour les favoris, notamment pour Chris Froome qui s'était lancé il y a quelques minutes maintenant?
Alors, il n'est pas encore passé au premier chrono intermédiaire. Christopher Froome, un premier temps intermédiaire qui, pour l'instant, est la possession de Tom Dumoulin, le Hollandais, qui ici même sur la ligne d'arrivée dispose du meilleur temps. Il a fait un temps canon puisqu'il dispose d'1 minute 31 d'avance sur son dauphin dans ce classement qui reste pour l'instant très provisoire, le Portugais Nelson Oliveira. Sachez que c'est Jérôme Coppel, le Français de l'équipe Yam Cycling, qui possède pour l'instant le troisième temps provisoire. Tony Martin, l'ancien champion du monde du contre-la-montre, n'a décroché que le sixième chrono provisoire. Cancellara est 12e. Jérôme Coppel qui fait mieux qu'un coureur comme Geraint Thomas. Geraint Thomas, le gallois de l'équipe Sky, qui est en train d'en terminer avec plus de 2 minutes de retard sur Tom Dumoulin. Nul doute que le Hollandais de l'équipe Giant Alpecin, vainqueur de l'étape Andorre Arcalis l'autre jour sous le déluge, a frappé un grand coup et sera difficilement battable. Alors qui pour le battre, ce grand Hollandais? Probablement personne d'autre que Christopher Froome.
Exactement, Chris Froome qui reste le grand favori avec Dumoulin donc de cette étape. Très difficile, hein, il faut bien le dire, cette année on a un nouveau chronométreur sur les routes du Tour, on a quasiment aucun point sur les points intermédiaires. Fred, je ne sais pas si tu arrives à en avoir quelques-uns quand même, mais c'est assez compliqué.
Par des réseaux détournés.
Oui, par des réseaux détournés, parce que ici pour les commentateurs du Tour de France, on ne peut pas dire que ce soit une réussite, le nouveau système de chronométrage de ce Tour de France. On va retourner sur la route justement avec Georges Quirino qui ne se trouve plus derrière Romain Bardet, mais derrière un grimpeur colombien nommé Nairo Quintana. Georges.
Exactement, je vais utiliser mon chronomètre pour le passage à l'intermédiaire si jamais vous avez des problèmes. On va faire comme ça derrière Nairo Quintana, oui, qui est malgré sa défaillance d'hier très populaire, hein, le coureur colombien qui a quand même bien du mal dans cette côte de Bourg-Saint-Andéol à rester dans la trajectoire qu'il veut au milieu de la route. Il se fait bouger par le vent qui est très violent encore aujourd'hui. On a quand même des rafales à 60 km/h pour le petit grimpeur colombien qui se relance, là, qu'il se met en danseuse alors qu'il arrive au kilomètre 7 au premier intermédiaire pour essayer d'aller le plus vite possible tout là-haut pour limiter la casse. On sait que c'est pas forcément un spécialiste du contre-la-montre, Nairo Quintana, qui a du mal à maintenir sa position, qui s'assoit, qui se remet debout sur ses pédales, qui se rassoit, qui est encouragé par Eusebio Unzué, son manager, et par José Luis Arrieta, son directeur sportif, qui sont derrière lui. Il y a énormément de monde là à l'intermédiaire pour les coureurs et pour Nairo Quintana qui passe au sommet, le coureur de l'équipe Movistar. Oui, Christophe.
Ouais, je vais t'interrompre parce qu'on est avec Pierre Roland qui vient d'en terminer ici sur la ligne d'arrivée. Pierre-Yves Leroux est avec lui.
Surtout sur le tour, on le fait plus ou moins à bloc, mais bon, après on peut soulager un petit peu, on va dire, les moments très difficiles, on enlève une dent ou deux et on enroule un petit peu le pédalage. Voilà, c'est une décision qui a été dure à prendre parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce tour pour faire le meilleur classement possible, et voilà, depuis deux jours je vois bien que j'ai pas la capacité de suivre parce que voilà, j'ai ma chute du Tourmalet m'a beaucoup affecté physiquement, et voilà, pour être dans le général du Tour il faut être à 100% et pas avoir un grain de sable dans l'engrenage, sinon c'est fichu. Et voilà, faut que je me tourne vers d'autres objectifs, et pour ça il faut perdre du temps, parce que on sait que les Sky ils contrôlent très très bien la course, et si j'ai pas 15 minutes de retard, j'irai jamais à l'avant.
Et d'autres objectifs, c'est essayer de se lancer dans une grande épopée dans les
Sky. Pierre Roland à 5 minutes 56 de Tom Dumoulin sur la ligne d'arrivée.
Ouais, bah c'était pas l'objectif, mais et voilà, c'est le tour et il faut revenir avec quelque chose, et si je ramène une étape ou quelque chose, au moins tenter quelque chose, pas subir la course et être passif tout le temps, juste être me remettre dans le jeu et être de nouveau acteur de la course. Et voilà, il faut quelques jours encore pour que ma main se repose, et j'espère pouvoir tirer sur le guidon et m'employer à 100%.
Voilà la réaction de Pierre Roland, et on voit sa main d'ailleurs posée sur le guidon avec encore les stigmates, les cicatrices de sa chute. Pierre Roland donc qui s'est un petit peu préservé aujourd'hui dans ce contre-la-montre. Prochaine arrivée d'un Français dans quelques minutes avec Warren Barguil, Christophe.
Très bien, on a quelques temps intermédiaires, Fred, qui parviennent ici au compte-gouttes dans notre camion RMC.
Effectivement, celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est évidemment celui de Romain Bardet qui est encore cinquième au classement classement général à 1 minute 15 de Christopher Froome. Il est passé au premier point intermédiaire au kilomètre 10 et Romain Bardet pointe à 1 minute 03 de Tom Dumoulin. Romain Bardet qui se prend des rafales de vent aujourd'hui, le vent qui souffle très fort ici en Ardèche, un vent qui a été, il faut le noter, fatal à un coureur, Edouard Tuns, le Belge de l'équipe Trek, qui a chuté tout à l'heure et qui a filé à l'hôpital. Abandon d'Edouard Tuns, chute de Julien Alaphilippe, également chute de Tony Galopin. Il y avait un choix à faire au départ de ce contre-la-montre en termes de matériel. Que mettre comme roues? Des roues classiques, normales, à rayons, rayons plats, à bâtons, roues pleines, roues lenticulaires. Apparemment, Romain Bardet a opté pour un schéma classique, lenticulaire à l'arrière et bâton à l'avant. Et il s'est pris une grosse rafale, Jérôme.
Ouais, c'est une erreur. C'est un choix pour moi qui est le mauvais, parce que il y a beaucoup de vent de côté. Le vent souffle sur la totalité du parcours de côté, et on aurait dû choisir pour les coureurs qui ne sont pas des gros rouleurs, des gros spécialistes tels que Romain Bardet, une roue à rayon à l'arrière. Alors 2,55 aujourd'hui, vous savez, on fait des roues de différentes hauteurs. Une roue de 55, c'est les grosses roues souvent utilisées pour les sprinteurs. Ça aurait été largement suffisant. Ça permettait au vent de ne pas prendre totalement 50, dans la roue 55, arrière. 55, c'est la hauteur,
c'est
de la
hauteur
jante.
De la jante.
55 mm.
5 cm
ouais,
et demi.
Exactement. Et donc, c'est un choix difficile. On l'a vu à l'image tout à l'heure. Romain Bardet est pris dans les rafales de ce Mistral qui continue à souffler très fort. Et ça le fait changer sa trajectoire. Et j'ai même eu des témoignages des coureurs dans les descentes qui m'ont dit j'ai eu très peur, j'ai freiné, et c'est très très compliqué.
Warren Barguil à l'arrivée avec un retard de 4 minutes 58 sur le chrono réalisé tout à l'heure par Tom Dumoulin. Il est avec Pierre-Yves Leroux, Warren.
Pas tout à fait, Christophe, vous êtes bien ambitieux, il va falloir courir un petit peu. Mais je vais courir, je vous fais signe dans un instant.
Vous courez vite, presque aussi vite que Chris Froome dans la montée.
4,58 de retard sur 37 500 km, ça peut sembler lourd et très cher payé pour Warren Barguil. Mais on parle là d'un chrono qui est établi sur Tom Dumoulin, hein, qui a réalisé un chrono exceptionnel et qui n'est pas placé au classement général. Il faudra faire les comptes par rapport aux autres prétendants au général. Pas dit que Nairo Quintana mette une valise, par exemple, à Warren Barguil aujourd'hui.
On a un temps intermédiaire important aussi au premier passage. C'est le Néerlandais, hein, pour le podium. Il est dans la bataille Bock Mollema, qu'il passe lui avec 31 secondes de retard sur Tom Dumoulin, et ça veut dire 21 secondes de retard sur Richie Porte. Il est en retard de même que Alejandro Valverde.
Nairo Quintana, lui, sur les 7 premiers kilomètres du parcours, a perdu 50 secondes sur le temps de référence de Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui a fait un chrono canon, on vous le rappelle. On va attendre dans quelques instants le passage de Christopher Froome, le maillot jaune.
Allez, on va derrière la ligne d'arrivée cette fois-ci. Pierre-Yves va rattraper Warren Barguil, le Français qui a pris 4 minutes 58 sur Dumoulin.
Après, où il y avait le vent, j'avais très très peu. Mais pour moi, c'est, je sais pas le temps des autres, mais je pense que ouais, c'est pas trop mal. Tom, il met déjà une trente et quelques au deuxième, je crois. Quelque chose comme ça, je sais pas c'est qui le deuxième, mais...
Une 31.
Ouais, c'est ça. Il a fait un gros chrono, et c'est différent quand on joue le général et qu'on se préserve pour aujourd'hui. Et j'attends de voir le temps des autres, mais pour moi, je fais une bonne montée. Après, derrière... sur la longue partie plate, j'ai un peu pêché, puis avec le vent, j'étais pas très serein. Et dans les deux montées, j'avais pour but de monter plus vite que je faisais habituellement, parce qu'habituellement je restais trop sur la réserve, et du coup là j'ai voulu faire un peu moins sur le plat et un peu plus dans les bosses, donc c'est pas trop mal. Je sais pas le temps, mais j'ai pas trop souffert, on va dire. J'ai pris du plaisir à faire le chrono, donc ça va, malgré le vent qui m'a fait un peu peur, mais autrement ça allait.
Il y avait un choix juste question de ton frère Nicolas Jet.
On va s'interrompre là, Pierre-Yves, parce qu'il faut qu'on arrête la route du Tour dans quelques instants. On a compris l'essentiel donc des propos de Warren Barguil. Fred, on va faire un point complet de la situation. Tout le monde est sur la route, certains l'ont terminé évidemment, mais tous les cadors en tous les cas sont sur les 37 500 km de cette 13e étape du Tour de France, avec Chris Froome, le dernier qui s'est annoncé il y a quelques minutes maintenant.
Oui, on attend le passage de Christopher Froome au premier point intermédiaire. Le meilleur temps provisoire ici sur la ligne d'arrivée à la caverne du Pont d'Arc, à la sortie des magnifiques gorges de l'Ardèche. Meilleur temps provisoire, on vous le rappelle, pour le champion des Pays-Bas du contre-la-montre, Tom Dumoulin, coéquipier de Warren Barguil, devant un Portugais, loin à 1 minute 30, Nelson Oliveira. Jérôme Coppel est troisième à 1:35. Richie Porte ne battra pas, c'est sûr, Tom Dumoulin. Porte, l'Australien, qui est passé avec 2 minutes, plus de 2 minutes de retard, au kilomètre 28. Dumoulin qui sera très dur à détrôner aujourd'hui.
Merci Fred, on va se quitter quelques instants, on va laisser passer les infos de 17h, la conférence de presse de François Molins, le procureur de la République de Paris, qui va s'exprimer en direct de Nice dans un instant, et puis on revient évidemment pour vivre la fin de l'étape et les réactions pour cette 13e étape du Tour. À tout à l'heure.
Suivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
RMC Intégral Tour.